Chapitre 2, 11. Jésus, comment vous y prenez-vous pour me prendre? Ah! Un matin, le bon directeur lui-même entra dans ma cellule. « Bon, pauvre ami, me dit-il, je vous apporte un mauvais message. Ayez du courage, lisez. » C'était une feuille de papier timbré, la copie du jugement en séparation de corps et de biens, si mérité quand même, de corps peut-être aussi de bien, mais dur dans l'espèce, comme le tribunal civil de la Seine. Je tombais en larmes sur mon pauvre dos, sur mon pauvre lit. Une poignée de main, une tape sur l'épaule du directeur me rendirent un peu néanmoins le courage, et une heure ou deux après cette scène, ne voilà-t-il pas que je me pris à dire à mon sergent de prier l'aumônier, monsieur l'aumônier, de venir me parler. Celui-ci vint, et je lui demandai un catéchisme. Il me donna aussitôt celui de persévérance de Monseigneur Gaume. Je suis littérateur, je goûte la correction, la subtilité, toute la cuisine du style comme de droit et de devoir. Même ces corrections, ces subtilités, je les prise, je les renifle, si vous voulez bien. J'ai horreur de toutes platitudes écrites. Mais en dépit d'un art déplorable, en fait d'écriture et d'une syntaxe à peine en vie, Monseigneur Gaume fut pour moi pourri d'orgueil, de syntaxe et de parisienne sottise, l'apôtre. 13. L'épreuve assez médiocre apportée par Monseigneur Gaume en faveur de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme me plurent peu et ne me convertirent pas du tout, je l'avoue, en dépit des efforts de l'aumônier pour les corroborer de ses meilleurs et ses plus cordiaux commentaires. C'est alors que ce dernier s'avisa d'une idée suprême et me dit « Sautez les chapitres et passez tout de suite au sacrement de l'Eucharistie. » Et je lus la centaine de pages consacrées par le bon prélat au sacrement de l'Eucharistie. Je ne sais si ces pages constituent un chef-d'œuvre, j'en doute même. Mais dans la situation d'esprit où je me trouvais, l'ennui profond où je plongeais en dépit de tous bons égards et de la vie relativement heureuse que ces bons égards me faisaient, et le désespoir de n'être pas libre et comme aussi de la honte de me trouver là, déterminèrent un certain petit matin de juin, après quelle nuit douce amère, passée à méditer sur la présence réelle et la multiplicité sans nombre des hosties, figuré aux saints évangiles par la multiplication des pains et des poissons. Tout cela, dis-je, détermina en moi une extraordinaire révolution, oui, vraiment. Il y avait depuis quelques jours, pendu au mur de ma cellule, au-dessous du petit crucifix de cuivre, semblable à celui dont il a été précédemment parlé, une image lithographique assez affreuse, aussi bien du Sacré-Cœur. Une longue tête chevaline de Christ, un grand buste émacié, sous de larges plis de vêtements, les mains effilées montrant le cœur, qui rayonne et qui saigne, comme je devais l'écrire un peu plus tard dans le livre Sagesse. Je ne sais quoi ou qui me souleva soudain, me jeta hors de mon lit sans que je puisse prendre le temps de m'habiller, et me prosterna en larmes, en sanglots, au pied du crucifix et de l'image surérogatoire évocatrice de la plus étrange, mais à mes yeux, de la plus sublime dévotion des temps modernes de l'Église catholique. L'heure seule du lever, 2 heures au moins peut-être après ce véritable petit ou grand miracle moral, me fit me relever et je vaguai, selon le règlement, aux soins de mon ménage, faire mon lit, balayer la chambre, lorsque le gardien de jour entra qui m'adressa la parole traditionnelle « Tout va bien ?» Je lui répondis aussitôt « Dites à monsieur l'aumônier de venir. » Celui-ci entrait dans ma cellule quelques minutes après. Je lui fis part de ma « conversion », entre guillemets. C'en était une, sérieusement. Je croyais, je voyais, il me semblait que je savais, j'étais illuminé. Je fusse allé au martyre pour de bon. Et j'avais d'immenses repentirs, évidemment proportionnés à la grandeur de l'offensé, mais sans nul doute, pour mon examen à présent, fort exagéré. D'ailleurs, on est fier souvent quand on se compare. Et je suis comme la généralité des hommes. L'aumônier, un homme d'expérience prisonnière et pour sûr habitué à ces sortes de conversions, vraies ou fausses, mais j'en suis convaincu, persuadé de ma sincérité néanmoins, me calma après m'avoir félicité de la grâce reçue. Puis, comme dans mon ardeur probablement indiscrète et imprudente de néophyte, y est encore littéralement tout mécréance et tout péché, je demandai et j'implorais de me confesser sur le champ, dans ma crainte de mourir impénitent, disais-je. Alors il me répliqua en souriant un peu, « Oh, n'ayez crainte, vous n'êtes déjà plus impénitent, c'est moi qui vous l'assure. Quant à l'absolution et même à la simple bénédiction, veuillez attendre encore quelques jours. Dieu est patient, il saura bien vous faire encore un petit crédit, lui qui attend son dû depuis pas mal de temps déjà, n'est-ce pas ? Bon, et à très très prochainement, aujourd'hui même. » 14. Et le digne, très digne homme de Dieu, me laissa tranquille. J'obtempérais à son système et me résignai, priant. Priant à travers mes larmes, à travers les sourires, comme d'enfant de comme un criminel racheté, priant, oh, à deux genoux, à deux mains, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, selon mon catéchisme ressuscité. Combien est-ce que je réfléchissais sur l'essence et l'évolution même de la chose qui s'opérait en moi? Pourquoi? Comment? Et j'avais de ces ardeurs, de ces, comme on dirait en nos odieux temps, dispositions. Comme j'étais bon, simple, petit et ignorant, domine noverim te. Quelle candeur d'enfant de cœur, quelle gentillesse de vieux et jeune, alors pécheur converti, d'orgueilleux s'humiliant, d'homme violent devenu un agneau. J'abdiquai dès lors toute lecture profane. Shakespeare, entre autres, déjà lu et relu dans le texte à coup de dictionnaire et enfin su par cœur, pour ainsi dire. Et je me plongeai dans des Demestres, des Auguste Nicolas, plus spéciaux. J'avais néanmoins de timides objections, que l'aumônier réfutait plus ou moins bien, admirablement pour le moi de cette époque. Mais les animaux, après leur mort, il n'en est pas question dans les livres saints. Oh, mon cher ami, si les livres saints n'en parlent pas plus que des filles d'Adam, par exemple, c'est que c'était superflu. D'ailleurs, Dieu étant l'infinie bonté, il a créé les bêtes que pour leur bien autant que pour le nôtre. Mais l'enfer éternel, Dieu est l'infinie justice. Et s'il punit éternellement, c'est qu'il a ses raisons pour ça. Raisons précellentes devant lesquelles notre rang unique droit est de nous incliner même sans les connaître. Car, en effet, les peines éternelles sont une espèce de mystère. Mais non, puisque le dogme ne les met pas à ce rang, et ainsi de suite. Le grand jour tant attendu, si impatiemment souhaité de la confession, arriva enfin. Elle fut longue, détaillée à l'infini, cette confession, ma première depuis celle du renouvellement de ma première communion. Tort sensuel surtout, tort de colère, tort d'intempérance, nombreux aussi ceux-ci, tort de petits mensonges, le vague et comme inconsciente tromperie, tort sensuel, j'y insiste. Le prêtre, de temps en temps, m'aidait dans les aveux, toujours un peu pénible en tel cas, du néophyte bizarre que j'étais. Entre autres questions, ne me posa-t-il pas celle-ci d'un ton calme et point étonnant, non plus qu'étonné, « Vous n'avez jamais été avec les animaux ?» 15. Après avoir répondu « Non, non, sans stupéfaction » de l'interrogation posée, je reçus d'un front humble et compris, tout de même après ma très véridique et consciencieuse, je vous assure, confession, la bénédiction, mais point encore l'absolution si convoitée. Et en attendant cette dernière, je repris, sur le conseil de mon directeur spirituel, mes travaux, lectures variées vers mi-un principalement. De cette époque date à peu près toute sagesse. « Mon Dieu m'a dit, il faut m'aimer », entre autres poèmes qu'on veut bien approuver généralement. Mes lectures, à partir de cette époque, en outre d'intense théologie, se reportèrent de l'anglais au latin, non seulement des pères, saint Augustin, ce sublime congénère dont j'étais ou me croyais alors l'infirme succédané, mais parmi les profanes, les classiques, Virgile, toutes les églogues, toutes les géorgiques, une grande partie de l'Énéide y passèrent. Le bon directeur de la prison et l'excellent aumônier potassaient avec moi presque tous les jours. Enfin, j'avais un gardien qui, voulant quitter la boîte, comme il disait, complétait son instruction en vue d'entrer ailleurs et me demanda un beau jour de lui donner des leçons de français. Et nous voilà, moi dictant, lui écrivant de sa grosse écriture. D'abord, des exemples de grammaire, êtes-vous madame de Genlis, etc. Et quand des progrès réels furent accomplis, des tranches soigneusement choisies des aventures du jeune Télémaque par monsieur de Salignac-Fénelon, archevêque de Cambrai. En échange de ces leçons, le brave garçon me procurait des douceurs, journaux locaux, gâteaux, chocolat, parfois la goutte et très souvent, ô joie, ô reconnaissance de la chic, car la chic était défendue, et la difficulté d'en dissimuler les traces, après usage accompli, la rendait plus délicieuse encore. Que de ruses, que d'astuces, pour lors de chaque salivation dans le petit bassin destiné à mes ablutions, faire couler un mince et aussi silencieux que possible filet d'eau, à l'effet de diluer et faire disparaître par la grille d'évacuation les preuves de l'affreux délit. Les jeudis et les dimanches, ma mère, munie chaque fois d'une permission du procureur du roi, venait me voir. Oh, que pénible et douce ces visites à travers deux grillages distincts d'environ un mètre! Nul moyen de s'embrasser que la signe de la main aux lèvres, de ne se parler qu'épier derrière une porte, tout contre pourvu d'un Judas d'où l'on vous observe à loisir. N'importe, ma brave mère tirait de sa poche un Figaro acheté à la gare, le dit Figaro arrangé ou plutôt allongé par torsion en forme de très fin fleuret, et me le passait à travers les grillages. Quelles émotions jugées, et quelles émotions à déployer, puis à lire ce journal qui, s'il m'avait été surpris à ce main, m'eût valu le cachot, la privation de visite, la suppression de la pistole et autres inconvénients. Et mille autres menues joies et petites misères, auxquelles, grâce à mes nouvelles idées, je me résignais et finissais par m'habituer, chrétiennement, quand se leva l'aurore du grand jour où je devais recevoir mon Sauveur. J'ai fait sur la communion des vers qu'on m'a dit bons, tant dans sagesse, mon livre de néophyte, si j'ose ainsi le qualifier, que dans les volumes subséquents plus apaisés, mais non moins sincères, Amour, Bonheur et mon plus récent Liturgies intimes. Laisse aller l'ignorance, etc., pour souffrir et mourir d'une mort scélérate. Je ne parle pas, bien entendu, de parallèlement où je feins de communier plutôt avec le diable. Je ne puis, comme je n'ai pu alors, mieux exprimer les poèmes dont j'ai l'immense sensation de fraîcheur, de renoncement, de résignation, éprouvée en cet inoubliable jour de l'Assomption 1874. À partir de ce jour, ma captivité, qui devait se prolonger jusqu'au 16 janvier 1875, me parut courte, et s'il eût été ma mère, je dirais trop courte. 16. Oui, à partir de ce jour, je fus, c'est le cas de le dire, comme pas un. Nul ne m'eût insulté que je ne lui eusse pardonné. Fait tout au moins sentir, non comme je le ferais aujourd'hui, ressentir son tort. Nul ne m'eût regardé que je ne lui ai répliqué par une prière intérieure pour le salut de son âme et ce vœu pensé latinément « Vade retro ». Ah oui, je fus dès cette assomption jusqu'au jour de ma littérale et matérielle et comme physique libération, heureux. Oui, pensez-y, se sentir innocent, se le croire tout au moins, croire par-dessus le marché, se le savoir, innocent, pensez-y donc. Et je voguais dans cette sorte de nacelle, dans ce bateau ainsi que blasphémerait le sale esprit contemporain, jusqu'en janvier 85, le 16, tel un Don Quichotte, plus bête encore en partance, pour d'autres moulins à vent. Je voguais ainsi vers ma libération, qui n'eut lieu qu'en ce jour humide de ce janvier-là. La veille, on m'avait remis ma montre, j'en eus une et même plusieurs, de vers 7 ans et même depuis. Mon portefeuille, garni de quelques billets de banque, dont j'étais également coutumier d'être un porteur, ma chemise et son faux col, et de vagues habits élégants. Maman, m'accompagnant après la levée d'écrou, le serment de main des employés du bureau, celui aussi préalable de l'aumônier, du directeur et des gardiens, je sortis de cette boîte, presque capitonnée, pour l'Enfin-Garde Mons. Entre maman et moi, deux gendarmes avec des bonnets à poils sur des têtes imberbes. Et nous voilà partis pour la France, où, comme de coutume et de juste, la gendarmerie avec le chapeau en bataille conseille nous recueillit des mains de la jeune maréchaussée, barbue, caracéphalène, donc question ci-dessus. Notre nationale armée de l'ordre nous reçut, je dis et répète nous, parce que nous étions quelques Français libérés, assassins, voleurs, et moi expulsés, sans grande cordialité. Même quant à ce qui me concerne, après moi avoir décliné, pourquoi pas conjugué, mes noms, prénoms et qualités, j'obtins du brigadier, mon compatriote, cet accueil si, n'est-ce pas, rageant, encourageant, encore agent, et surtout, elle n'y revenait plus. Non, mon brigadier. Douai, ma mère qui me fut jusqu'au bout si dévouée, si bonne, si clémente, m'accompagnait ainsi que je l'ai dit plus haut. Douai, ville sainte, où des bords de Valmore est née à l'ombre de la Notre-Dame de là-bas, dont elle s'est toujours souvenue parmi tant d'ennuis et de préoccupations parisiens. Et que d'étage, la pauvre femme! Douai est ton carillon tendre et larron. Batelier, disait Lisette, turlututu, gaillant qui pète, turlututu, par le trou de son cul. Oh, Douai, salut! 17. En V, oh ville gentille à l'extrême, presque vaugeoise, où je fus interné sous l'inculpation de menaces sous condition contre ma mère, crime d'après le code pénal puni de mort, poing coupé, nu-pied, maman. Oh maman, en effet, pardonne-moi ce seul mot. Si tu ne reviens pas chez nous, je me tue. Des Belges affreux qui avaient accaparé ta confiance, ne me désencerrent-ils pas, après plainte mienne, au parquet de V, G en procureur, à propos d'un viol de domicile par les Belges ci-dessus, domicilié après plusieurs incendies en divers lieux, à C, par A, département des Ardennes. Si bien qu'un jour, je reçus une assignation, et 8 jours après, comparus devant le tribunal de première instance du ressort. Le chemin, dirais-je, le calvaire, non, fut charmant. Une femme mariée, son mari et moi, plus un chien qui aboyait après des corbeaux perchés sur la plus haute branche, étions canotés dans ce qu'on appelle vulgairement un tape-cul, et ce que l'usage, au boulevard de Gand, intitule buggy. Ah, le lion d'or! Le lion d'or de la région nous accueillit, cheval et tout. Puis nous fûmes au tribunal, ce mari et sa dame mettant des témoins à décharge. La plus jolie trinité de juges que j'ai jamais vue dans ma délictueuse et criminelle sorte de vie. Le président s'appelait Adam. Son assesseur de droit s'appelait Marie. J'oublie, et je lui en demande excuse, le nom de l'autre assesseur qui, par une dérogation rogatoire, m'avait servi de juge d'instruction. Mais je me souviens, oh que oui, du nom du procureur de la République, G. J'ai d'ailleurs fait sur lui des vers pour un volume qualifié d'invective pour paraître chez mon ennemi naturel Léon Vanier, 19 Quai Saint-Michel. Nous entrons au palais de justice de cette minuscule sous-préfecture et admirons-en la superbe nullité architecturale, rara avis en ce temps de prétention de tout ordre. Admirons aussi, non long, la moindre nullité de ce monsieur G. Procureur de la République, radical, zélé, bien, m'a-t-on dit, que clérical, catholique, bien, paraît-il, que libre penseur et en quelque sorte ma muse d'acajou. Jugez-en. L'archiconnu mobilier de n'importe quel tribunal, du chêne, du papier à tenture sombre, des rideaux de même nuance et 3 messieurs en robe noire et rabat blanc. À gauche, une table avec le procureur derrière, même costume que ci-dessus, plus une toque à galon d'or généralement sur la tête, en arrière, crânesquement. L'audience commença par des broutilles, vagabonds, braconniers, petits voleurs, enfin, etc. Quand vint mon affaire, une espèce de silence se fit dans l'auditoire assez nombreux ce jour-là. J'étais un espèce de monsieur dans la région, en outre d'une réputation assez détestable que j'y avais. Un De Ray, matiné de plusieurs Edgar Poe, qui auraient compliqué leur rhume et leur cas d'absinthe et de picon. Tel, moi, dans l'imagination de passablement de mes voisins de campagne, accourus à la ville pour voir juger le Parisien. L'interrogatoire fut ce que sont toutes ces formalités. Mais le réquisitoire manqua de ce qu'on appelle modération. J'eusse été un Hérode fondu avec un Héliogabale, que des épithètes énormes n'auraient point volé plus dru sur les lèvres de ce G avec qui les abeilles de l'Hymette n'ont jamais, je le crains, eu affaire. Le plus infâme des hommes, le fléau du pays, venu pour déshonorer nos campagnes. Cela se passait dans les Ardennes et ce G est auvergnat. Je ne sais comment qualifier cet individu et je renonce à trouver une expression qui dit toute mon horreur. Je le rattraperai d'ailleurs plus tard, tant que cette affaire relativement peu importante. Mais me dis donc, chérie, quelles furent quelques-unes des fleurs de son bouquet. De vérité et de bon sens, point question. Et il concluait au maximum qui est, lisez le code, la mort. Le tribunal m'appliqua le minimum. Je ne puis ici, ni ne pourrai nulle part, jamais remercier ces messieurs de quoi que ce soit, non plus peut-être que de les blâmer, puisque j'étais un innocent entortillé, il est vrai, des plus plausibles faux témoignages. Du moins dois-je reconnaître qu'ils y ont, comme on dit, mis du leur en ce cas. D'ailleurs, leur bonne volonté et leur considérant, vu l'excellente attitude de l'accusé à l'audience, enfin, le bénéfice des circonstances atténuantes accordées, tout cela m'amoindrit l'idée de la prison à refaire, et je leur en garde une reconnaissance don quittance. La prison de V est toute petite. Les barreaux sont de bois peint en noir. On jouait au bouchon avec le gardien-chef. On y reste peu, un mois juste avec un jour de plus, je crois, quand la peine doit se prolonger ailleurs. Il y avait de mon temps un corbeau familier, ennemi rauque des peu mélodieux chats de l'établissement, qui par suite d'incongruité dans des baquets où coulaient des lessives, fut tué d'un coup de carabine par le patron et fit d'excellents bouillons. J'ai raconté le fait en détail dans mes « Mémoires d'un veuf ». Dans cette prison si bonhomme, j'étais chargé du ménage, épousté, balayé. À ce propos, le gardien-chef me dit un jour que j'avais mal fait l'ouvrage. L'homme était du Nord et il ajouta que j'étais plus fort sur l'écriture que sur la peinture. Il est bon de dire que j'avais dans le pays une réputation déjà d'écrivain. J'étais aussi prié tous les soirs de réciter au dortoir le Pater Noster et l'Ave Maria. Il paraît que je m'en acquittais bien mieux que mon prédécesseur dans cet emploi. Parbleu, et sans trop de peine, vraiment. Un aumônier venu de Falaise, un village voisin dont il est question dans la débâcle d'Émile Zola, et qui avait été missionnaire en Chine, enterré vivant, nous disait la messe tous les dimanches. Son sermon hebdomadaire, plein d'anecdotes et très gentil, dans ce joli accent un peu anglais des Ardennes, se concluait par une poignée de main à travers des barreaux, de bois comme les autres, avec quelques 3 ou 4 prisonniers que nous étions. Cela dura donc un mois, au bout duquel mon amende, 500 francs étant payée, je sortis en compagnie du gardien-chef, avec qui je bus quelques bouteilles d'un certain petit vin de Vouc, dont je ne vous dis que ça, dans un cabaret à côté qui s'appelait Au Bon Coin, et méritait cette dénomination. 18. Or, de l'ancien chat noir, aujourd'hui le mirliton, transition, je sortais, quelques soirs commençant, quittant les délices de Salis et de l'alors persona grata Léon Blois, le tigre du bon Dieu et le chat du bon diable, et de Marie Krizinska et le tant d'aimables monstres, après quelques libations extrêmement prolongées. Non, mais peut-être. Je quittais donc ces délices-là et me dirigeais, demeurant vers la Bastille, devant une station de fiacre non distante, pour rejoindre mon domicile encore filial. Mais quel diable aussi me poussant, je voulus réfrigérer par une seule et dernière absinthe les autres. Une erreur de compte, après ensuite d'absorption, éclata, et je crus devoir réclamer beaucoup et très haut mon droit. Et j'appelai un sergent de ville, qui me mit immédiatement au poste, et pas trop doucement. Moi, reçu là, le sous-brigadier ou son supérieur me fit quitter ma cravate, ma pipe et mon porte-monnaie. Je ne dormis pas. Compagnon d'un ivrogne qui faisait pipi et caca tout le temps dans le lieu interne pour ses besoins. Mais le matin, à 9h, les sergots qui avaient passé la nuit à nous passer de l'eau dans un gobelet d'étain, le même en nous disant « Si vous aviez bu que ça, vous ne seriez pas ici », nous libérèrent. Et dès 9h, environ 12 heures d'insomnie et quelle, je fus appelé par mon nom, précédé du nom « Monsieur », chez Monsieur le commissaire de police, dont le nom pourtant assez connu dans ses parts m'échappe, de la rue Bochard de Saron. Ce magistrat ne me dit rien. En outre de mon nom, inscrit sur un registre et d'un reçu donné à l'agent qui m'avait arrêté la veille. Enfin, j'étais sorti de ces drôles de mains-là. Pour jamais. Conclusion. En novembre dernier, je prenais mon billet à la gare du Nord pour la Hollande dans le dessein de faire des conférences à La Haye, Leyde et Amsterdam, où m'avaient convoqué des groupes d'artistes, de littérateurs et d'étudiants. Le voyage se passa paisiblement, d'autant plus que, grâce à une richesse inespérée la veille, j'avais pu me procurer un coupé à moi tout seul. Depuis que je suis égrottant, j'adore mes aises, bien qu'accoutumé à la dure maintenant. Je traversais cette région française du Nord si triste et si monotone, à part quelques paysages charmants vers Chantilly, sombres dans les parages de Saint-Quentin et plus loin qu'Alexandre Ier de Russie trouvait l'aide par excellence, combien juste titre. Il me fut donné ensuite de revoir à vol d'oiseau, c'est presque le mot, la Belgique autrefois habitée, comme enfant dans la zone autrefois française des Ardennes septentrionales, nommée aujourd'hui Luxembourg-Belge, comme homme, et beaucoup plus tard, partout et de différentes façons. Entre autres souvenirs matérialisés, fut à Mons l'apparition du château qui luit tout rouge et l'or tout blanc. Je veux parler de la prison cellulaire que je n'avais jamais si bien vue du dehors. Elle est située à l'extrémité de la ville, affectant la forme d'une roue encastrée dans quatre murs, constituant un rectangle, le tout terminé par le dôme polygone de la chapelle. La porte d'entrée à côté de pierre grise a une tournure artistique et joue au gothique assez bien. La patine, peut-être, du temps écoulé et la distance, me la montrèrent alors, comme d'ailleurs le verre dont je viens de citer un fragment me l'avait évoqué, rouge de sang, ces briques qui me paraissaient autrefois, de près et peu d'années après leur emploi, rose pâle presque. D'ailleurs, tout à mes futures conférences et ruminant rythme métrique rimer tout l'embarras de cette sorte de causerie sur la poésie française et franco-belge contemporaine, je passais sans trop d'émotion dans cet asile sévère où j'ai tant souffert et tant joui il y a 9 ans de cela. J'arrive là-bas. Je fais mon occasionnel métier d'orateur, ou plutôt de lecteur, tant bien que mal, et obtiens auprès d'un public indulgent tout le succès que je puis espérer. Je savoure pendant quelques jours trop brefs la cordialité calme, la bonhomie fine et réfléchie de mes nouveaux amis, leurs applaudissements, leurs louanges après chaque séance, les jours suivants et dans les trois quarts des journaux littéraires et artistiques du pays. J'admire cette étrange contrée, toute verdure et toute eau, ces villes à l'architecture traditionnelle. Et je reprends presque, hélas, le train pour Paris. Je repasse à Mons et revois le château qui luit tout rouge et l'or tout blanc. Cette fois, je me reporte au passé. Le chemin que je viens de faire en littéral précipicule, en véritable baron de la finance, sur des coussins capitonnés, entouré de tout le confortable possible et l'objet de tous égards de la part des employés de tout grade, je l'ai subi jadis en wagon cellulaire pour descendre d'un panier à salade dans une cour de pénitencier, entre des gardiens de prison et des gendarmes pour escorte. Là, j'ai d'abord gémi, blasphémé, d'avoir de quelle ville, de quel sot, de parfois quels odieux regrets. Puis je l'ai raconté quelques pages plus haut, sont venues la conversion et le bonheur pendant une persévérance de plusieurs années. Le relâchement peu à peu s'en est suivi, puis les chutes à nouveau. Irrémédiable? Oh, peut-être non, car Dieu est miséricordieux et m'a encore envoyé le malheur, ruiné dans les circonstances les plus navrantes. Vraiment, vraiment. Déception, trahison par le prochain scandalisé. Dame, aussi, peut-être non. Mais cette lâcheté, cette mollesse, cet entêtement de rechef dans l'impénitence, entêtement instinctif, quasiment bestial. Un faux accueil m'attendait à Paris. L'hypocrisie, le mensonge, finalement le vol habile et côtelé, comme plausible de quelques billets de banque que je rapportais. Mon exaspération à ce sujet me valut dès le surlendemain un désagrément qui eût pu tourner pire, n'eût été ma modération devant la situation donnée. Une querelle très violente dans mon escalier fit venir le concierge qui appela les agents. Ceux-ci, prenant ma colère et sa véhémence pour les suites de stations trop prolongées aux lieux où l'on boit, me fourrèrent pour 1 heure ou 2 au poste, non sans inutile brutalité. Vous décrirai-je encore ces scènes policières grotesques et somme toute abominables, plus encore que bêtes? Assez, n'est-ce pas, d'écœurement de ce genre? Je finis par ne plus en pouvoir à force d'évocations pénibles. Moi, le triomphateur de là-bas, l'acclamé, le choyé à l'étranger, le lendemain de mon retour, au poste, et même par gris. Messieurs de la police française, quelle gaffe pour parler dans le langage qui vous sied et qui vous plaît. Mais courez donc sus aux malfaiteurs si vous l'osez, et laissez les poètes tranquilles. Ils ne vous regardent pas dans les deux sens du verbe. Mais c'est vrai que nul n'est prophète en son pays. mais aussi, oh, le catéchisme de Monseigneur Nergaume. Oh, ne pouvoir le relire, ne pouvoir peut-être le relire et cette fois s'y tenir. Dieu néanmoins miséricordieux, et l'espérance est une vertu théologale qu'il départ plus volontiers. Seigneur, ayez pitié de nous.